Chapitre 12. Un double et même amour. Le bonhomme d'Auxerre revint de Paris et fut assez étonné de ne pas avoir été le premier à donner la bonne nouvelle. Durieux préparait le plus succulent des dîners. Les gens s'habillaient et l'on attendait avec impatience les proscrits qui, vers 4 heures, arrivèrent à la fois joyeux et humiliés, car ils étaient pour 2 ans sous la surveillance de la haute police, obligés de se présenter tous les mois à la préfecture et tenus de demeurer pendant ces 2 années dans la commune de Cinq-Cygnes. « Je vous enverrai à signer le registre, » leur avait dit le préfet. « Puis, dans quelques mois, vous demanderez la suppression de ces conditions, imposées d'ailleurs à tous les complices de Pichegru. J'appuierai votre demande. » Ces restrictions assez méritées attristèrent un peu les jeunes gens. Laurence se mit à rire. « L'empereur des Français, » dit-elle, « est un homme assez mal élevé qui n'a pas encore l'habitude de faire grâce. » Les gentilshommes trouvèrent à la grille tous les habitants du château et sur le chemin une bonne partie des gens du village venus pour voir ces jeunes gens que leurs aventures avaient rendus fameux dans le département. Madame d'Auxerre tint ses fils longtemps embrassés et montra un visage couvert de larmes. Elle ne put rien dire et resta saisie mais heureuse pendant une partie de la soirée. Dès que les jumeaux de Simeuse se montrèrent et descendirent de cheval, il y eut un cri général de surprise causé par leur étonnante ressemblance. Même regard, même voix, même façon. L'un et l'autre, ils firent exactement le même geste en se levant sur leur selle, en passant la jambe au-dessus de la croupe du cheval pour le quitter et en jetant les guides par un mouvement pareil. Leur mise, absolument la même, aidait encore à les prendre pour de véritables ménechmes. Ils portaient des bottes à la Souvarov façonnées au coup de pied, des pantalons collants en peau blanche, des vestes de chasse vertes à boutons de métal, des cravates noires et des gants de daim. Ces 2 jeunes gens, alors âgés de 31 ans, étaient, selon une expression de ce temps, de charmants cavaliers. De taille moyenne, mais bien prise, ils avaient les yeux vifs, ornés de longs cils et nageant dans un fluide comme ceux des enfants, des cheveux noirs, de beaux fronts et un teint d'une blancheur olivâtre. Leur parler, doux comme celui des femmes, tombait gracieusement de leurs belles lèvres rouges. Leur manière, plus élégante et plus polie que celle des gentilshommes de province, annonçait que la connaissance des hommes et des choses leur avait donné cette seconde éducation, plus précieuse encore que la première, et qui rend les hommes accomplis. Grâce à Michu, l'argent ne leur ayant pas manqué durant leur émigration, ils avaient pu voyager et furent bien accueillis dans les cours étrangères. Le vieux gentilhomme et l'abbé leur trouvèrent un peu de hauteur, mais, dans leur situation, peut-être était-ce l'effet d'un beau caractère. Ils possédaient les éminentes petites choses d'une éducation soignée et déployaient une adresse supérieure à tous les exercices du corps. La seule dissemblance qui put les faire remarquer existait dans les idées. Le cadet charmait autant par sa gaieté que l'aîné par sa mélancolie. Mais ce contraste, purement moral, ne pouvait s'apercevoir qu'après une longue intimité. « Ah, ma fille !» dit Michu à l'oreille de Marthe. Comment ne pas se dévouer à ces 2 garçons-là ? Marthe, qui admirait, et comme femme, et comme mère, les jumeaux, fit un joli signe de tête à son mari en lui serrant la main. Les gens eurent la permission d'embrasser leur nouveau maître. Pendant les 7 mois de réclusion à laquelle les 4 jeunes gens s'étaient condamnés, ils commirent plusieurs fois l'imprudence assez nécessaire de quelques promenades, surveillées d'ailleurs par Michu, son fils et Gothard. Durant ces promenades, éclairées par de belles nuits, Laurence, en rejoignant au présent le passé de leur vie commune, avait senti l'impossibilité de choisir entre les 2 frères. Un amour égal et pur pour les jumeaux lui partageait le cœur. Elle croyait avoir 2 cœurs. De leur côté, les 2 Paul n'avaient point osé se parler de leur imminente rivalité. Peut-être s'en étaient-ils déjà tous 3 remis au hasard. La situation d'esprit où elle était agit sans doute sur Laurence, car, après un moment d'hésitation visible, elle donna le bras aux deux frères pour entrer au salon et fut suivie de M. et Mme d'Auxerre qui tenaient et questionnaient leur fils. En ce moment, tous les gens crièrent « Vive les cinq cygnes et les cimeuses !» Laurence retourna, toujours entre les deux frères, et fit un charmant geste pour remercier. Quand ces neuf personnes arrivèrent à s'observer, car dans toute réunion, même au cœur de la famille, il arrive toujours un moment où l'on s'observe après de longues absences, au premier regard qu'Adrien d'Auxerre jeta sur Laurence, et qui fut surpris par sa mère et par l'abbé Gouget, il leur sembla que ce jeune homme aimait la comtesse. Adrien, le cadet des d'Auxerre, avait une âme tendre et douce. Chez lui, le cœur était resté adolescent, malgré les catastrophes qui venaient d'éprouver l'homme. Semblable en ceci à beaucoup de militaires, chez qui la continuité de péril laisse l'âme vierge, il se sentait oppressé par les belles timidités de la jeunesse. Aussi différait-il entièrement de son frère, homme d'aspect brutal, grand chasseur, militaire intrépide, plein de résolution, mais matériel et sans agilité d'intelligence comme sans délicatesse dans les choses du cœur. L'un était toute âme, l'autre était toute action. Cependant, ils possédaient l'un et l'autre, au même degré, l'honneur qui suffit à la vie des gentilshommes. Brun, petit, maigre et sec, Adrien d'Auxerre avait néanmoins une grande apparence de force, tandis que son frère, de haute taille, pâle et blond, paraissait faible. Adrien, d'un tempérament nerveux, était fort par l'âme. Robert, quoique lymphatique, se plaisait à prouver la force purement corporelle. Les familles offrent de ces bizarreries dont les causes pourraient avoir de l'intérêt, mais il ne peut en être question ici que pour expliquer comment Adrien ne devait pas rencontrer un rival dans son frère. Robert eut pour Laurence l'affection d'un parent et le respect d'un noble pour une jeune fille de sa caste. Sous le rapport des sentiments, l'aîné des d'Auxerre appartenait à cette secte d'hommes qui considère la femme comme dépendante de l'homme en restreignant au physique son droit de maternité, lui voulant beaucoup de perfection et ne lui en tenant aucun compte. Selon eux, admettre la femme dans la société, dans la politique, dans la famille, est un bouleversement social. Nous sommes aujourd'hui si loin de cette vieille opinion des peuples primitifs que presque toutes les femmes, même celles qui ne veulent pas de la liberté funeste offerte par les nouvelles sectes, pourront s'en choquer. Mais Robert d'Auxerre avait le malheur de penser ainsi. Robert était l'homme du Moyen-Âge, le cadet était un homme d'aujourd'hui. Ces différences, au lieu d'empêcher l'affection, l'avaient au contraire resserrée entre les deux frères. Dès la première soirée, ces nuances furent saisies et appréciées par le curé, par Mademoiselle Gouget et Madame d'Auxerre, qui, tout en faisant leur Boston, aperçurent déjà des difficultés dans l'avenir. À 23 ans, après les réflexions de la solitude et les angoisses d'une vaste entreprise manquée, Laurence, redevenue femme, éprouvait un immense besoin d'affection. Elle déploya toutes les grâces de son esprit et fut charmante. Elle révéla les charmes de sa tendresse avec la naïveté d'un enfant de 15 ans. Durant ces 13 dernières années, Laurence n'avait été femme que par la souffrance. Elle voulut se dédommager. Elle se montra donc aussi aimante et coquette qu'elle avait été jusque-là grande et forte. Aussi les quatre vieillards qui restèrent les derniers au salon furent-ils assez inquiétés par la nouvelle attitude de cette charmante fille. Quelle force n'aurait pas la passion chez une jeune personne de ce caractère et de cette noblesse? Les deux frères aimaient également la même femme et avec une aveugle tendresse. Qui des deux Laurence choisirait-elle? En choisir un, n'était-ce pas tuer l'autre? Comtesse de son chef, elle apportait à son mari un titre et de beaux privilèges, une longue incrustation. Peut-être, en pensant à ses avantages, le marquis de Cimeuse se sacrifierait-il pour faire épouser Laurence à son frère, qui, selon les vieilles lois, était pauvre et sans titre. Mais le cadet voudrait-il priver son frère d'un aussi grand bonheur que celui d'avoir Laurence pour femme? De loin, ce combat d'amour avait eu peu d'inconvénients, et d'ailleurs, tant que les deux frères coururent des dangers, le hasard des combats pouvait trancher cette difficulté. Mais qu'allait-il advenir de leur réunion? Quand Marie-Paul et Paul-Marie, arrivés l'un et l'autre à l'âge où les passions sévissent de toutes leurs forces, se partageraient les regards, les expressions, les attentions, les paroles de leur cousine, ne se déclarerait-il pas entre eux une jalousie dont les suites pouvaient être horribles? Que deviendrait la belle existence égale et simultanée des jumeaux? À ces suppositions, jetées une à une par chacun pendant la dernière partie de Boston, Madame d'Hautserre répondit qu'elle ne croyait pas que Laurence épouserait un de ses cousins. La vieille dame avait éprouvé durant la soirée un de ces pressentiments inexplicables qui sont un secret entre les mères et Dieu. Laurence, dans son fort intérieur, n'était pas moins effrayée de se voir en tête-à-tête avec ses cousins. Au drame animé de la conspiration, au danger que coururent les deux frères, au malheur de leur émigration, succédait un drame auquel elle n'avait jamais songé. Cette noble fille ne pouvait pas recourir aux moyens violents de n'épouser ni l'un ni l'autre des jumeaux. Elle était trop honnête femme pour se marier en gardant une passion irrésistible au fond de son cœur. Rester fille, lasser ses deux cousins en ne se décidant pas, et prendre pour mari celui qui lui serait fidèle malgré ses caprices, fut une décision moins cherchée qu'entrevue. En s'endormant, elle se dit que le plus sage était de se laisser aller au hasard. Le hasard est, en amour, la providence des femmes. Le lendemain matin, Michu partit pour Paris, d'où il revint quelques jours après avec 4 beaux chevaux pour ses nouveaux maîtres. Dans 6 semaines, la chasse devait s'ouvrir, et la jeune comtesse avait sagement pensé que les violentes distractions de cet exercice seraient un secours contre les difficultés du tête-à-tête au château. Il arriva d'abord un effet imprévu qui surprit les témoins de ces étranges amours en excitant leur admiration. Sans aucune convention méditée, les deux frères rivalisèrent auprès de leur cousine de soins et de tendresse, en y trouvant un plaisir d'âme qui sembla leur suffire. Entre eux et Laurence, la vie fut aussi fraternelle qu'entre eux deux. Rien de plus naturel. Après une si longue absence, ils sentaient la nécessité d'étudier leur cousine, de la bien connaître, et de se bien faire connaître à elle l'un et l'autre en lui laissant le droit de choisir, soutenus dans cette épreuve par cette mutuelle affection qui faisait de leur double vie une même vie. L'amour, de même que la maternité, ne savait pas distinguer entre les deux frères. Laurence fut obligée, pour les reconnaître et ne pas se tromper, de leur donner des cravates différentes, une blanche à l'aîné, une noire pour le cadet. Sans cette parfaite ressemblance, sans cette identité de vie à laquelle tout le monde se trompait, une pareille situation paraîtrait justement impossible. Elle n'est même explicable que par le fait qui est un de ceux auxquels on ne croit qu'en les voyant, et quand on les a vus, l'esprit est plus embarrassé de se les expliquer qu'il ne l'était d'avoir à les croire. Laurence parlait-elle? Sa voix retentissait de la même manière dans les deux cœurs également aimants et fidèles. Exprimait-elle une idée ingénieuse, plaisante ou belle? Son regard rencontrait le plaisir exprimé par deux regards qui la suivaient dans tous ses mouvements, interprétaient ses moindres désirs et lui souriaient toujours avec de nouvelles expressions, gaies chez l'un, tendrement mélancoliques chez l'autre. Quand il s'agissait de leur maîtresse, les deux frères avaient de ces admirables primesauts du cœur en harmonie avec l'action et qui, selon l'abbé Gouget, arrivaient au sublime. Ainsi, souvent, s'il fallait aller chercher quelque chose, s'il était question d'un de ces petits soins que les hommes aiment tant à rendre à une femme aimée, l'aîné laissait le plaisir de s'en acquitter à son cadet en reportant sur sa cousine un regard à la fois touchant et fier. Le cadet mettait de l'orgueil à payer ces sortes de dettes. Ce combat de noblesse, dans un sentiment où l'homme arrive jusqu'à la jalouse férocité de l'animal, confondait toutes les idées des vieilles gens qui le contemplaient. Ces menus détails attiraient souvent des larmes dans les yeux de la comtesse. Une seule sensation, mais qui peut-être est immense chez certaines organisations privilégiées, peut donner une idée des émotions de Laurence. On la comprendra par le souvenir de l'accord parfait de deux belles voix comme celle de la Zontag et de la Malibran, dans quelque harmonieux duo, par l'unisson complet de deux instruments que manient des exécutants de génie et dont les sons mélodieux entrent dans l'âme comme les soupirs d'un seul être passionné. Quelquefois, en voyant le marquis de Simeuse plongé dans un fauteuil, jeter un regard profond et mélancolique sur son frère qui causait et riait avec Laurence, le curé le croyait capable d'un immense sacrifice. Mais il surprenait bientôt dans ses yeux l'éclair de la passion invincible. Chaque fois qu'un des jumeaux se trouvait seul avec Laurence, il pouvait se croire exclusivement aimé. « Il me semble alors qu'ils ne sont plus qu'un », disait la comtesse à l'abbé Gouget, qui la questionnait sur l'état de son cœur. Le prêtre reconnut alors en elle un manque total de coquetterie. Laurence ne se croyait réellement pas aimée par deux hommes. « Mais, chère petite, » lui dit un soir Madame d'Auxerre, dont le fils se mourait silencieusement d'amour pour Laurence, « il faudra cependant bien choisir. »« Laissez-nous être heureux, » répondit-elle. « Dieu nous sauvera de nous-mêmes. » Adrien d'Auxerre cachait au fond de son cœur une jalousie qui le dévorait et gardait le secret sur ses tortures en comprenant combien il avait peu d'espoir. Il se contentait du bonheur de voir cette charmante personne qui, pendant quelques mois que dura cette lutte, brilla de tout son éclat. En effet, Laurence, devenue coquette, eut alors tous les soins que les femmes aimées prennent d'elles-mêmes. Elle suivait les modes et courut plus d'une fois à Paris pour paraître plus belle avec des chiffons ou quelques nouveautés. Enfin, pour donner à ses cousins les moindres jouissances du chez-soi, desquelles ils avaient été sevrés pendant si longtemps, elle fit de son château, malgré les hauts cris de son tuteur, l'habitation la plus complètement confortable qu'il y eût alors dans la Champagne. Robert d'Auxerre ne comprenait rien à ce drame sourd. Il ne s'apercevait pas de l'amour de son frère pour Laurence. Quant à la jeune fille, il aimait à la railler sur sa coquetterie, car il confondait ce détestable défaut avec le désir de plaire. Mais il se trompait ainsi sur toutes les choses de sentiment, de goût ou de haute instruction. Aussi, quand l'homme du Moyen-Âge se mettait en scène, Laurence en faisait-elle aussitôt, à son insu, le niais du drame. Elle égayait ses cousins en discutant avec Robert, en l'amenant à petits pas au beau milieu des marécages où s'enfoncent la bêtise et l'ignorance. Elle excellait à ces mystifications spirituelles qui, pour être parfaites, doivent laisser la victime heureuse. Cependant, quelque grossière que fût sa nature, Robert, durant cette belle époque, la seule heureuse que devaient connaître ces trois êtres charmants, n'intervint jamais entre les Simeuse et Laurence par une parole virile qui peut-être eût décidé la question. Il fut frappé de la sincérité des deux frères. Robert devina sans doute combien une femme pouvait trembler d'accorder à l'un des témoignages de tendresse que l'autre n'eût pas eu ou qu'il eût chagriné. Combien l'un des frères était heureux de ce qui advenait de bien à l'autre et combien il en pouvait souffrir au fond de son cœur. Ce respect de Robert explique admirablement cette situation qui, certes, aurait obtenu des privilèges dans les temps de foi où le souverain pontife avait le pouvoir d'intervenir pour trancher le nœud gordien de ces rares phénomènes, voisins des mystères les plus impénétrables. La Révolution avait retrempé ses cœurs dans la foi catholique. Ainsi, la religion rendait cette crise plus terrible encore, car la grandeur des caractères augmente la grandeur des situations. Aussi M. et Mme d'Auxerre, ni le curé, ni sa sœur, n'attendaient-ils rien de vulgaire des deux frères ou de Laurence. Ce drame, qui resta mystérieusement enfermé dans les limites de la famille où chacun l'observait en silence, eut un cours si rapide et si lent à la fois. Il comportait tant de jouissances inespérées, de petits combats, de préférences déçues, d'espoirs renversés, d'attentes cruelles, de remises au lendemain pour s'expliquer, de déclarations muettes que les habitants de Cinq-Cygnes ne firent aucune attention au couronnement de l'empereur Napoléon. Ses passions faisaient d'ailleurs trêve en cherchant une distraction violente dans les plaisirs de la chasse, qui, en fatiguant excessivement le corps, ôtent à l'âme les occasions de voyager dans les steppes si dangereuses de la rêverie. Ni Laurence ni ses cousins ne songeaient aux affaires, car chaque jour avait un intérêt palpitant. « En vérité, dit un soir Mademoiselle Gouget, je ne sais pas qui de tous ses amants aime le plus. » Adrien se trouvait seul au salon avec les quatre joueurs de Boston. Il leva les yeux sur eux et devint pâle. Depuis quelques jours, il n'était plus retenu dans la vie que par le plaisir de voir Laurence et de l'entendre parler. « Je crois, dit le curé, que la comtesse, en sa qualité de femme, aime avec beaucoup plus d'abandon. » Laurence, les deux frères et Robert revinrent quelques instants après. Les journaux venaient d'arriver. En voyant l'inefficacité des conspirations tentées à l'intérieur, l'Angleterre armait l'Europe contre la France. Le désastre de Trafalgar avait renversé l'un des plans les plus extraordinaires que le génie humain ait inventé et par lequel l'empereur eût payé son élection à la France avec les ruines de la puissance anglaise. En ce moment, le camp de Boulogne était levé. Napoléon, dont les soldats étaient inférieurs en nombre comme toujours, allait livrer bataille à l'Europe sur des champs où il n'avait pas encore paru. Le monde entier se préoccupait du dénouement de cette campagne. « Oh, cette fois, il succombera !» dit Robert en achevant la lecture du journal. « Il a sur les bras toutes les forces de l'Autriche et de la Russie !» dit Marie-Paul. « Il n'a jamais manœuvré en Allemagne !» ajouta Paul-Marie. « De qui parlez-vous ? » demanda Laurence. « De l'empereur !» répondirent les trois gentilshommes. Laurence jeta sur ses deux amants un regard de dédain qui les humilia, mais qui ravit Adrien. Le dédaigné fit un geste d'admiration et il eut un regard d'orgueil où il disait assez qu'il ne pensait plus, lui, qu'à Laurence. « Vous le voyez ? L'amour lui a fait oublier sa haine !» dit l'abbé Gouget à voix basse. Ce fut le premier, le dernier, l'unique reproche que les deux frères encoururent. Mais en ce moment, ils se trouvèrent inférieurs en amour à leur cousine qui, deux mois après, n'apprit l'étonnant triomphe d'Austerlitz que par la discussion que le bonhomme d'Auxerre eut avec ses deux fils. Fidèle à son plan, le vieillard voulait que ses enfants demandassent à servir. Ils seraient sans doute employés dans leur grade et pourraient encore faire une belle fortune militaire. Le parti du royalisme pur était devenu le plus fort à Cinq-Cygnes. Les quatre gentilshommes et Laurence se moquèrent du prudent vieillard qui semblait flairer les malheurs dans l'avenir. La prudence est peut-être moins une vertu que l'exercice d'un sens de l'esprit, s'il est possible d'accoupler ces deux mots. Mais un jour viendra sans doute où les physiologistes et les philosophes admettront que les sens sont en quelque sorte la gaine d'une vive et pénétrante action qui procède de l'esprit.